nos petits déjeuners, les spéciaux du midi et la table d'hôte du soir. Boulevard Tachereau, Brossard.
Maboutiqueradio.ca.
Conseiller études, travail et famille. Découvrez les 26 certificats en gestion de HEC Montréal. Admission en cours. Choisissez HEC Montréal, l'école de gestion.
Au réseau Cogeco Média. Voici le Québec maintenant. Québec maintenant, avec Philippe Quentin.
On va conclure l'émission en parlant du Canadien, en parlant de la victoire, notre équipe de hockey féminin, en parlant avec Daniel Sauvageau et en parlant aussi de Jeannette Bertrand, qui était l'invitée de la victoire hier dans un match. Ça a été un grand, grand moment et j'ai bien hâte d'en discuter avec Daniel dans un moment. Valérie Leboeuf est là pour les nouvelles. Alors, Valérie, c'est la nouvelle du jour. C'est maintenant confirmé. Le Parti libéral formera un gouvernement minoritaire.
Oui, parce que le dépouillement des urnes est en train de se compléter. Les libéraux qui se retrouvent avec un maximum de 169 circonscriptions. Ils ont donc 169 élus. Il en aurait fallu 172 pour obtenir la majorité. Et selon Jean-Marc Léger, président de Léger 360, la possibilité d'un gouvernement majoritaire pour Mark Carney pourrait se trouver chez d'éventuels transfuges néo-démocrates.
Avec le Parti libéral qui est si près de la majorité, il est à 168 sièges. Normalement, là, avec les recomptages, il y a encore une possibilité mathématique qui devienne majoritaire, mais il faudrait qu'il s'enligne. Il y a 5 comtés où il risque d'avoir des recomptages. Il faudrait qu'il gagne 4 des 5 comtés, ce qui est à peu près pas possible, mais qui est encore mathématiquement possible. Mais imaginez un ou deux néo-démocrates qui traversent la ligne. C'est beaucoup plus ça, à mon avis, qui peut se passer.
Oui, ben ça sera intéressant à suivre. Dimitri Soudas a évoqué la même idée un petit peu plus tôt aujourd'hui. Puis juste, Valérie, pour mentionner comment la soirée d'hier a été excitante. Il était autour de 23 heures. On a fait une entrevue avec le ministre des Finances du Canada, François-Philippe Champagne, qui venait d'être réélu dans sa circonscription à Shawinigan. Et à ce moment-là, la soirée est avancée. Élu et en avance, il y avait un écart de 2 simplement entre les libéraux et les conservateurs. C'était 154 pour les libéraux et 152 pour les conservateurs. Et ça ne cessait pas de se rapprocher. Et puis finalement, ben là, les libéraux ont pris l'avantage. Et aujourd'hui, l'écart est quand même assez considérable. Mm-hmm. C'est 25 députés, 169, tu le mentionnais, mm-hmm. 144, 25 députés, oui, de plus pour les libéraux. OK, ces élections-là ont des conséquences, notamment au sein de la famille souverainiste au Québec.
Oui, parce que les relations sont tendues entre le chef du PQ, Paul Saint-Pierre Plamondon, et son homologue du Bloc, Yves-François Blanchet. Monsieur Saint-Pierre Plamondon a dit que le PQ avait tout donné pour aider son parti frère à Ottawa, mais a reproché à Monsieur Blanchet d'avoir dit qu'il collaborait avec le chef libéral Mark Carney. Le chef péquiste a même laissé entendre que M. Blanchet était naïf.
J'ai prédit que le Canadien se qualifierait en séries éliminatoires. Ce matin, je vais faire une prédiction beaucoup moins risquée. Le gouvernement Carney ne collaborera pas avec le Québec et nous ne sommes pas en position d'obtenir autre chose que ce que Justin Trudeau nous a réservé pendant 10 ans. On est allé le plus loin qu'on pouvait pour soutenir le Bloc sur le terrain comme publiquement.
Et les attentes sont grandes envers Mark Carney à Québec. Hein, le maire de la ville, Bruno Marchand, eh ben, il l'a rencontré avant l'élection.
Oui.
Puis il veut que le projet du tramway avance.
Ouais. Exact. Lui est impatient de voir se concrétiser les promesses du premier ministre Mark Carney pour sa région. Le maire Marchand espère notamment la bonification du financement du projet de tramway, mais aussi des enveloppes pour construire du logement.
Là, c'est M. Carney. Les relations sont hyper bonnes. On est, je pense, on a de bonnes affinités. Fait que je pense que c'est bon pour la ville. On s'attend à ce que, comme M. Duclos l'avait promis, que le financement fédéral dès 2026 suive à la hauteur du 40 % attendu. C'est une bonne nouvelle pour d'autres projets. On a discuté, M. Carney et moi, on a une priorité sur le logement. Ils s'en viennent avec un grand plan logement, d'investissement en matière de logement. On en a franchement besoin.
Et sur la scène internationale, la panne d'électricité massive d'hier a causé au moins 5 décès en Espagne, selon le quotidien El País.
Oui, du nombre, on compte 3 membres d'une même famille qui auraient inhalé du monoxyde de carbone. Il y a une génératrice utilisée pour alimenter un respirateur. Le premier ministre espagnol a lancé une commission d'enquête sur les causes de la panne. Pedro Sanchez a affirmé que toutes les mesures seront prises pour éviter que ça se reproduise. L'hypothèse de la cyberattaque est exclue par le gestionnaire du réseau électrique espagnol. Voilà.
Merci beaucoup, bonne Valérie. Soirée. À demain. Bonne soirée.
Montréal. Parce que vous voulez tout. tout savoir. On fait le point sur l'actualité. Jusqu'à 18h30, vous écoutez Le Québec maintenant. Au réseau Cogeco Média. Voici Philippe Quentin.
Il est 18h05, il fait 23 degrés à Montréal. Ben profitez-en si vous êtes dehors, parce que là, le mercure va se mettre à chuter et chuter et chuter encore. Imaginez, là, on va passer de 23 degrés à l'heure actuelle à 2 degrés demain matin à 6 heures. Alors, si vous êtes un lève-tôt, ben c'est 2 degrés. Peut-être que c'est mieux de ne pas avoir rangé sa tuque et ses mitaines encore. Mais rassurons-nous, le mercure va grimper tranquillement au fil de la journée. On va atteindre 12-13 degrés. Et du soleil également. Jeudi et vendredi, menace de pluie, menace quand même assez importante, là, entre 50 et 90 %. Par contre, pour le week-end, samedi et dimanche, hier, je me souviens, quand on a fait la météo, on annonçait de la pluie. Samedi, eh bien là, ce n'est plus dans le portrait. Samedi, 9 et 15, les minima et maxima, et dimanche, 7 et 16. Alors, somme toute, pas trop mal. On se dirige peu à peu vers le printemps. Dans quelques minutes, Mario Langlois sera là. C'est le match de la dernière chance demain pour le Canadien à Washington. On va analyser ça ensemble. Mais d'abord, on va parler de notre équipe, la victoire de Montréal, qui jouait un match hier. Et ça a été tout un événement, parce qu'il y avait une invitée spéciale à la rencontre. Et j'en parle dès maintenant avec Danielle Sauvageau, qui est directrice générale de La Victoire. Danielle, bonjour.
Bonjour, comment vas-tu?
Ben, ça va très bien. Je suis surtout tellement heureux de t'accueillir à l'émission. Danielle, je sais que vous avez vécu toute l'organisation un moment magique hier. Et si tu veux, nos amis de RDS ont eu le gentillesse de nous envoyer un petit extrait sonore là, de la présentation de votre invitée spéciale. Alors voilà, on entend l'ovation, on a entendu là l'annonce. Accueillez Madame Jeannette Bertrand. Daniel, accueillir Jeannette Bertrand à ce match de hockey, ça a dû être vraiment formidable.
Mais écoute, je ne sais même pas si le mot formidable, et tu sais, c'est comme multiplié par l'ensemble des gens qui étaient présents hier. Si un jour on m'avait dit tu vas marcher sur la glace avec Madame Bertrand, pour qu'elle puisse être appréciée, reconnue, et que les gens puissent dire « Wow, cette femme qui a conquis le Québec depuis 100 ans, dans le fond. » Je ouais. pense que dès sa naissance, là, elle avait tout ce qu'il fallait pour arriver à faire ce qu'elle a fait. C'était merveilleux. Je la tenais avec Marie-Christine Boucher, là, notre directrice du côté des opérations business, et c'était magnifique. On pouvait sentir ses sentiments. Elle s'est mise à pleurer lorsqu'elle a été adjugée. C'est très impressionnant d'être sur la glace et d'avoir une ovation de la sorte. Et là, tu sais, qu'est-ce que je fais avec la rondelle? Mmh. Alors, et d'avoir deux grandes femmes avec Hilary Knight et Marie-Philippe Poulin, c'était plus que magique. C'était un moment unique, vraiment unique, que Mme Bertrand, je pense, a vécu, et le grand privilège de l'avoir vécu avec elle.
Comment tout ça s'est organisé, Daniel? Tout à coup, à l'occasion, j'imagine, de son 100e anniversaire, là, on l'a souligné partout au Québec, vous a dit « Hey, ça serait le fun qu'elle vienne à la victoire, vous faites un match de la victoire, vous faites les premières approches. » Elle vous dit oui. Raconte-nous comment ça s'est produit.
Mais ça s'est passé un peu comme tu viens de le mentionner, Marie-Christine, qui a des contacts là, avec certains agents dans le monde du business et autres, a tendu la perche en disant, ben nous, ce serait important. À tous les matchs, hein, on fait un petit une demande, les enfants, les hommes, les gens de la Rive-Sud, de la Rive-Nord, les gens de Montréal et les femmes. Et il y a beaucoup de femmes dans l'amphithéâtre de toutes les générations. Alors, pour nous, c'était symbolique. C'était, oui, de la reconnaître. Et son agent dit oui. Et je sais là que tout passe par elle. Elle gère beaucoup ses apparitions, qu'est-ce qu'elle a le goût de faire. Et lorsque la demande lui a été, c'est elle-même qui nous le racontait hier, j'ai eu le privilège là, d'avoir ma mère qui l'a rencontrée et mon frère.
Ah,
et
oui.
C'est exactement ce qu'elle nous disait. Elle dit, ben j'ai eu la demande, puis je me suis dit, ben il mérite tellement, ça a pris tellement d'années, on en est tellement là, le hockey joué par les femmes, les coachés par les femmes, le mouvement du sport féminin. Alors, pour elle, c'était très naturel. Mais pour nous, c'était, je pense pas qu'elle réalise tout l'impact qu'elle a eu, tout l'impact et le cadeau qu'elle nous a fait hier.
Bon, quand elle est arrivée, est-ce que c'est toi et qui l'a accueillie?
C'est Marie-Christine qui nous l'a amenée au niveau du vestiaire. Et juste en face du vestiaire, on a ce qu'on appelle le lounge des athlètes. Et elle était là avec son mari. Tout doucement, comme ça, on s'est mis à jaser, Marie-Christine et moi, puis de l'impact qu'elle avait. Et à un moment donné, j'ai senti quelqu'un qui était tout près de moi, puis qui s'est assis sur un petit banc à côté de nous, puis c'est Marie-Philippe Poulin qui est venue lui parler tout doucement. Et c'était comme merveilleux, parce que c'était comme calme, serein. Et Marie se préparait visiblement là, à jouer un match très important. Mais c'est dans toute cette douceur-là, puis elle lui a pris la main, puis elle me dit, toi, t'es Marie, hein, c'est ça, hein. Puis là, elle lui a parlé, alors ça s'est fait. Et ensuite, on l'a dirigé justement vers une petite loge là, qui était aux abords du banc des joueuses. Et puis elle était très à l'aise, puis on lui a expliqué qu'on était pour la soutenir. Elle dit, oh, je vous fais confiance. Mais tu sais, alors c'est un peu comme ça, puis une rondelle, comment faire la mise en jeu et pas d'aller trop loin, puis on va revenir sur le tapis. Et puis lorsque justement on est retourné là vers le banc, elle dit, c'était-tu correct? Je me suis mis à pleurer. Ben voyons donc, c'était tellement émouvant. Et toute sa famille, elle avait des membres de sa famille, sa petite fille aussi qui était là, qui venait tout juste d'avoir 18 ans. Et elle dit, j'ai voté pour la première fois. Alors, tu sais, c'était des moments qui étaient importants pour l'avancement de la femme, dans la femme dans le sport et dans la femme, dans l'avancement justement de la position féministe.
Et la foule n'était pas vraiment au courant à qu'elle était invitée?
Ça a été annoncé la semaine passée, quelques jours avant, que effectivement c'était notre personne invitée. Et les commentaires justement qu'il y avait sur les médias sociaux étaient extraordinaires. Je pense que les gens étaient très contents de la voir.
Parle-moi de l'ovation, Daniel.
Écoute, c'est difficile de décrire ça parce que bon. On entend l'annonceur, les gens se sont levés debout, je lui ai dit, parce que c'est difficile avec justement la lumière dans les yeux, et je lui ai dit, les gens sont debout, puis là, elle nous serrait la main, elle tremblait même, mais là, quand ils ont annoncé son nom, c'était comme une vague d'émotion, puis on dirait que ça vient de la glace, puis ça nous... Alors, j'ose même pas pouvoir décrire ce que Mme Bertrand a vécu. Mais moi, cette ovation-là, puis de la tenir, puis là, elle nous serrait la main, c'était très émotionnel. Encore une fois, les mots me manquent, mais c'est vraiment quelque chose dont je vais... Tu sais, que je vais me rappeler longtemps. Et pourtant, c'est d'entendre ce bruit-là. Et c'est... Tu sais, quand on dit souvent, c'est des messages d'amour, c'est des cris d'amour, c'est vraiment une ovation extraordinaire.
Hey, t'en as vécu des choses dans le hockey, Daniel. Et j'imagine hier ce que tu as dû éprouver comme sentiment. Oui, il y a la présence de Mme Bertrand, mais toute la symbolique que sa présence, justement, comporte pour le sport féminin, tu l'as mentionné tantôt avec beaucoup d'éloquence, pour la victoire, pour l'équipe de la victoire, pour les fans, pour les pionnières qui ont fait en sorte que cette ligue-là existe. À quelque part, c'est un peu bizarre de le dire, mais c'est comme une consécration de voir que Mme Bertrand vient et puis vous dit par sa présence, « Hey, ce que vous avez fait là, c'est absolument remarquable. Il était temps qu'on en soit là comme société. » C'est quand même beau, là.
J'aurais pas pu le résumer aussi bien que toi. Lorsque tu mentionnais ça, pendant le match, et tu sais, moi, pendant le match, je communique avec le banc, je suis dans le match, et notre photographe m'a envoyé une photo de la mise en jeu, et je suis venue les yeux pleins d'eau par la symbolique. Et sur cette photo d'avoir deux grandes capitaines, Hillary Knight, je vous le rappelle, c'est la capitaine de l'équipe américaine, c'est la joueuse qui a joué le plus de championnats mondiaux jusqu'ici, avec Marie-Philippe Poulin. Et cette photo-là, je te confirme, elle va... j'ai pas beaucoup de photos dans mon bureau, mais cette photo-là, je vais t'encadrer.
Ah ben c'est absolument fantastique. Puis tout ça, c'est terminé de belle façon pour votre équipe, une belle victoire en prolongation aussi.
Et oui, comme je disais à nos partisans, parce que c'était la soirée des partisans hier, de par leur cri, les pancartes, quand les enfants viennent avec des pancartes, avec tous les moments, font de Montréal, du Grand Montréal, fait en sorte là, que la victoire continue de résonner à Montréal. Puis on en est très fiers de nos partisans parce que c'est extraordinaire les moments qu'ils nous font vivre.
Bon, et alors vous allez conclure votre saison régulière durant le week-end, puis après, ce sont les séries éliminatoires.
Et oui, les dates sont pas tout à fait confirmées. Effectivement, on joue à New York.